Fréquence Banane, la radio dont on aura la peau.
Alors, nous passons maintenant à Loïc Gervais, qui va adresser la question de la citoyenneté numérique dans son sens le plus holistique, si on peut dire.
Non,
il ne faut pas.
Déjà tout à l'heure, tu as dit que j'allais conclure en beauté, donc c'est sympa. Bonsoir à tous, donc, je suis Loïc Gervais, moi je viens de France, donc vous m'excuserez de ne pas connaître les particularités du système suisse. Merci pour l'invitation. Et vous m'excuserez aussi, j'ai encore tendance à dire 90, 70 et autre chose comme ça. Donc citoyen d'une société numérique, c'est ce que je vous propose et... Quand j'ai proposé cette intervention, je me suis dit, mais comment j'aborde ça? Est-ce que j'aborde le fait d'essayer de définir ce que c'est qu'une société numérique? Est-ce que je dis que je suis moi-même un citoyen numérique? Est-ce qu'on peut continuer d'être citoyen avec le numérique? Est-ce que je suis un habitant ou du cyberespace, comme l'a défini Barlow dans sa déclaration d'indépendance? Enfin, je trouvais que ça faisait beaucoup de questions en très peu de mots. Et je vous propose de les prendre un par un, tranquillement, et de s'intéresser, donc, pour commencer, phonologiquement, à ce que va être ça. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. J'imagine que vous avez déjà tous entendu parler de cet adage, et juste pour vous remettre dans le contexte historique, il date du 15e siècle. De Rabelais, c'est dans le Pantagruel. J'ai pas fait les recherches pour savoir exactement dans quel contexte il était cité, mais je me dis que ça peut être intéressant, parce que finalement, c'est une question qu'on se pose depuis la nuit des temps, façon de parler, en tout cas, depuis 5 siècles. Ah, est-ce que je fais l'envers ? Ah, bon. La citoyenneté numérique, elle a été définie par l'UNESCO. Je me suis dit, au moins, je ne prends pas trop de risques. Je vais prendre un organisme relativement qui a pignon sur rue. Elle a été définie en 2011, hein, comme vous le voyez dans ce référentiel pour les enseignants. Depuis, je n'ai pas trouvé de définition émanant d'un organisme ayant pignon sur rue. Donc, c'est le fait de posséder des équipements et des compétences qui permettent de participer à une société numérique, par exemple, d'accéder à des informations gouvernementales en ligne, d'utiliser des sites de réseaux sociaux et de faire usage d'un téléphone mobile. Donc en 2011, on ne parle pas encore tout à fait de smartphone, mais on peut étendre, j'imagine, la définition à ces appareils-là. Gardez-la bien en tête, parce que c'est à peu près la seule que je vais vous donner. Citoyen, c'est celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité. De son plein gré. Ben, pour qu'il participe, il faut d'abord qu'il ait les outils, nous rappelle l'UNESCO. Il faut aussi qu'ils puissent, évidemment, s'en servir. C'est quoi une société? C'est un ensemble d'individus qui partagent des normes, des comportements et une culture. Donc quand je vais sur le web, je sais que si j'écris en majuscule, je crie et c'est mal vu. Donc je m'adapte à cette société-là et je n'écris pas continuellement en majuscule. Quand j'écris un courrier électronique, j'adopte une norme qui est connue et reconnue par tous, qui est même défini, mais dont personne est peut-être capable de donner la définition exacte, qu'on appelle la netiquette. Je commence par un petit bonjour, je termine par un petit cordialement, j'envoie ceci en copie claire, et s'il y a 45 destinataires dans mon courrier électronique, j'évite de mettre tout le monde en clair dans ma messagerie électronique. Ça tient à peu de choses, concrètement. Le fait de faire société et de partager une culture numérique. Ça, c'est un aspect concret. Je vous parlais en préambule de la déclaration d'indépendance du cyberespace. Je pourrais citer ce que disait quelqu'un de relativement consensuel sur le sujet il y a quelques années, qui disait qu'il voulait profiter du 25e anniversaire du web pour essayer de reprendre la main sur le web et définir ce que serait le web dans les 25 prochaines années. Sachant que l'année prochaine, on fait les 30 ans, cette personne, c'était Tim Berners-Lee. Voilà, c'est comment il a défini ça. Il faut reprendre la main sur le web. Mais alors, qui doit reprendre la main sur le web? J'ai eu une initiative récemment passée, celle de Genève Numérique. Je ne sais pas du tout s'il y a des représentants ici qui ont mis en ligne cette initiative pour définir la politique numérique de l'État. C'est génial. Si un citoyen se définit par le fait de participer volontairement à la vie de la cité, il y a donc 472 citoyens à Genève. Puisqu'ils ont participé, il y a 472 participants volontaires à cette politique de numérique de l'État pour 814 contributions. Alors je voudrais rassurer l'État de Genève sur ce résultat et cette consultation qui a duré un mois. Il y a quelques mois en arrière, en France, c'est l'Assemblée nationale qui s'est adressée comme ça aux Français en disant « Tiens, on va faire nous aussi la politique numérique de l'État », donc français, donc ce coup-ci on s'adresse à 60 millions et quelques de Français, 10 000 participants. Donc, vous voyez, on est toujours dans ce rapport de force où finalement on essaie de s'adresser à beaucoup de gens et au final, il y en a très peu, et souvent ce sont des gens qui sont très bien instruits, qui participent. 472 citoyens de Genève, dont je fais partie, puisque j'ai participé activement à la vie de la cité, je suis donc citoyen de Genève. Enfin, si. Je m'excuserai un petit peu le raccourci, évidemment, à l'inverse, mais c'est une notion intéressante. Le numérique remet bien en cause la question même de citoyenneté. Avant, c'était celui qui habitait la ville. Effectivement, la ville, elle était super bien définie. On sait où s'arrête la ville de Genève, il y a des panneaux qui nous le disent. Il y a déjà un petit peu moins de panneaux quand il s'agit de l'espace aérien, évidemment. Mais alors, quand il s'agit de l'espace numérique, il n'y en a plus. En France, donc, côté français, comme je vous disais, ce genre de consultation se fait depuis plusieurs années sur des grands sujets. Alors j'en ai pris deux parmi tant d'autres. Donc l'un qui s'appelle « Citoyen d'une société numérique » et l'autre qui disait « Ambition numérique, quelle allait être la politique française et européenne de la transition numérique ». Donc c'est quand même assez comme ça, quand on regarde le sujet, c'est assez péchu. Et c'est assez intéressant parce que ça se fait avec tout le monde, sauf avec ceux qui sont concernés finalement. C'est-à-dire sauf avec les usagers. Et si on devait reprendre notre rôle de citoyen, ça serait ça. Mais ça voudrait dire que vos politiques, finalement, ils devraient changer de logiciel. C'est un peu comme si demain, vous décidiez de faire un parc public et de ne pas demander, par exemple, aux enfants quel jeu ils voudraient dedans. Pourtant, ce sont eux les experts d'utilisation des parcs publics, c'est pas moi, technicien du parc public en question. C'est comme si dans ce parc public, vous mettiez des cailloux au bord du sol, dans le sol, alors que toutes les personnes qui vont venir avec des poussettes et des fauteuils en lambeaux vont vous dire « Mais non, on ne peut pas avancer si vous mettez des cailloux. » Alors qu'est-ce qu'on fait pour que nos citoyens soient encore membres de notre société? Quelle société voulons-nous? Est-ce que nous voulons une société à 474 contributeurs? Ou est-ce que nous voulons une société où tout le monde peut participer? C'est-à-dire tout le monde a les outils, les compétences nécessaires pour participer. Je sais que vous ne faites pas partie de l'Europe, je ne suis quand même pas aussi étranger que ça au fait de la Suisse, mais l'Europe a défini que la compétence numérique était l'une des 8 clés nécessaires à tout individu pour son épanouissement et son développement personnel, pour sa citoyenneté active, pour son intégration sociale et pour son emploi. Il n'y a pas de raison de penser que ça ne soit pas le cas aussi pour les citoyens suisses. Il n'y a pas de raison de penser que cette compétence ne soit pas moins indispensable aux Suisses qu'elle ne l'est aux Français ou aux Allemands. Comment développe-t-on cette compétence? C'est ça la question. C'est la véritable question. En 1997, c'est ça, 97 pour moi, le Premier ministre français a développé ce qu'on appelle un réseau d'espace public numérique en France, où l'objectif c'était ça. C'était globalement d'accompagner tous les citoyens dans les acquisitions des savoirs sur le numérique. Et à l'époque, c'était simple. c'était très très simple. Le web avait 5 ou 6 ans. Savoir se servir d'Internet, c'était juste montrer aux gens, mais c'est ça Internet. Regardez, voilà un navigateur, comment ça fonctionne. Ça, on appelle ça un traitement de texte. Voici, ce n'était que des compétences opérationnelles, pures et dures, de la formation, comme on en trouve. Ces compétences opérationnelles, elles ont évolué au fur du temps. Et elles ont évolué notamment avec la dématérialisation des services. Quand l'Agence pour l'emploi, en 2008, a mis toutes ses annonces d'emploi sur Internet, personne ne s'est posé la question, à un moment donné, si les demandeurs d'emploi auraient accès à cette information et comment ils y auraient accès. Pourtant, tout le monde savait que les demandeurs d'emploi étaient ceux qui avaient la capacité d'avoir accès à l'information. D'autant plus quand il s'agissait d'acheter un appareil qui, à l'époque, coûtait relativement cher, de le connecter à un réseau qui, à l'époque, en 2008, était relativement peu développé sur toute la France. Pire encore, il y a une application qui s'appelle Mes aides en ligne. Elle est formidable, cette application. Elle vous dit, en France, toutes les aides dont vous avez besoin selon votre situation. Moi, j'ai travaillé avec des femmes qui sont dans un centre d'hébergement pour femmes battues. Il y a une d'elles, dont je vais vous raconter son histoire rapidement, qui s'appelle Magda et qui est d'origine polonaise et qui, très franchement, parle très très bien français. En tout cas, bien mieux que moi, je ne parle polonais. Et à cette dame, on lui dit gentiment, mais si tu veux savoir toutes les aides dont tu as besoin dans ta situation de femme battue, qui, on peut le concevoir, n'est quand même pas super facile à vivre, eh bien tu vas sur Internet, tu tapes mesaides.gouv.fr et puis vas-y, débrouille-toi. Il n'y a personne, à un moment donné, qui s'est dit qu'il y aurait peut-être des gens en détresse qui auraient besoin d'accompagnement. C'est-à-dire que là, concrètement, elle a effectivement déjà besoin que quelqu'un lui traduise le langage technocratique. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui lui explique nécessairement comment fonctionne un ordinateur. Mais déjà, le simple fait de remplir un formulaire, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, de ce côté de la frontière, mais alors chez nous, il faut savoir y faire. Même une déclaration d'impôt, ça devient un parcours du combattant. Et je fais ça en ligne tous les ans depuis 20 ans, et tous les ans, je me dis, bon, prends-toi une heure et demie, pour bien faire ta déclaration d'impôt, parce que c'est un petit stress. Alors, je vous à peine imaginer, avec Magda, qui parle polonais, un petit peu comme ça, et qu'on lui dit, mais débrouille-toi, en plus, bon, ça va, c'est tranquille, ça te dira tout ce que tu as droit à faire, mais charge à toi après de faire les démarches. Faut pas rêver non plus. C'est ce qu'on appelle la médiation numérique. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir une société numérique, de mon point de vue, évidemment, si on ne conçoit pas d'accompagnement. Sauf à vouloir concevoir une société qui exclut les gens. Si nous voulons toujours faire société, il faut penser à accompagner tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça part non seulement de Magda, mais ça remonte jusqu'au, pourquoi pas, Premier ministre, aux députés. Tout à l'heure, Alexis, il y a quelques minutes, nous parlait de la RGPD qui était à l'Assemblée nationale en France il y a quelques semaines. Et effectivement, sur les 577 députés, je vous rassure, il n'y en a pas 577 qui comprennent exactement de quoi ils sont en train de parler. Donc il y a bien aussi un besoin d'accompagnement à faire, ne serait-ce que pour traduire un terme comme « données personnelles ». Ce matin, j'étais à un forum sur le télétravail et j'expliquais que les collectivités territoriales pouvaient, par exemple, en Haute-Savoie, favoriser le télétravail quand il neigeait. Et on m'a dit, mais ceux qui déblayent la neige ne vont pas faire le télétravail. Mais prenez-moi pour un idiot, effectivement, mais c'est pas tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que, par contre, ceux qui font du secrétariat, de la comptabilité, ce genre de choses, peuvent, les jours où il neige, et ça arrive quand même relativement souvent dans nos régions, faire du télétravail pour peu que l'employeur, l'institution lui-même, fasse le chemin. On en est là. On en est là et on en est en 2018. Et on nous parle gentiment d'intelligence artificielle, de blockchain, d'open data. J'en passe, c'est des meilleurs. Alors, je ne vous raconte pas le travail qu'il y a à faire pour que tout le monde s'acculture à ces données, autant du côté des décideurs que du côté de ceux qui en seront, j'ai envie de dire, les victimes, entre guillemets, c'est-à-dire de nous-mêmes, citoyens, qui allons devoir batailler vis-à-vis de ces situations. Ce que disait ce Premier ministre en 1997, il disait que l'essor des technologies de l'information, ça s'appelait comme ça à l'époque, ne devait pas creuser de fossés numérique. Le fossé, il existe. C'est fait. Ça, c'est bon. Le constat, il est là. Vous regardez vos parents, regardez vos grands-parents, regardez vos voisins. Donnez-leur trois mots comme ça, open data, blockchain et transhumanisme. Et regardez leurs réactions. Regardez vous aussi. Hein, il n'y a pas de raison. Je vous rassure, je ne connais pas non plus les tenants et les aboutissants de ces trois mots. Je ne suis pas un monstre à 17 têtes. Mais pourtant, ce sont des phénomènes qui impactent notre société au quotidien. Je vais terminer par un dernier exemple qui me tient particulièrement à cœur et un petit peu plus peut-être anecdotique, qui est lié à la présence des femmes dans les milieux numériques. Comme vous l'avez vu encore ce soir, malheureusement nous n'étions que quatre hommes à intervenir, je regrette personnellement. Et pourquoi est-il important que les femmes aillent dans le numérique? Eh bien, j'ai appelé ça, je vous rassure, je ne suis pas du tout scientifique, le théorème du soutien-gorge. Le soutien-gorge, a priori, est un objet typiquement féminin. Quand vous allez sur Internet pour acheter ce type d'objet et que vous êtes une femme, vous vous retrouvez devant un site qui est mal foutu. Vous ne comprenez pas. Mais pourquoi ça marche comme ça? Mais c'est pas possible, il est mal fait ce site. Mais je ne comprends pas, je ne suis pourtant pas idiote, je fais de l'informatique, truc comme ça. Non. Je vous rassure, mesdames, vous n'êtes absolument pas idiotes. C'est juste que le site web en question a été fait par des hommes. Et que bizarrement, nous ne pensons pas de la même manière. C'est un aspect très concret, très pragmatique. C'est pour ça qu'il nous faut des femmes aussi dans Internet. Parce que si nous modelons tout un Internet à l'image des hommes, vous imaginez? Demain, peut-être que vous ne serez plus non plus citoyennes. Alors, je voudrais quand même quitter avec un petit message d'espoir, parce que j'espère bien que vous serez encore citoyenne. L'accompagnement, c'est la clé. L'accompagnement du numérique, c'est un enjeu dans une stratégie de l'État. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État se pose la question de savoir quelle volonté, quelle politique numérique nous voulons mettre en place pour Genève, pour la Suisse, pour l'Europe, que sais-je, il doit penser systématiquement à l'accompagnement. C'est-à-dire fini de financer uniquement des tuyaux qui nous envoient de la fibre et autres de données à je ne sais combien de kilomètres heure. Fini de financer uniquement des recherches fondamentales qui sont extrêmement importantes. Il faut accompagner tout le monde à tous les usages, à tous les outils et à tous les enjeux du numérique. Je vous remercie.
Va t'asseoir.
Ah, monsieur, gentil.
Jean-Marc, Alexis et Sébastien, venez nous rejoindre. Installez-vous. Alors moi, j'ai retenu beaucoup de choses de ce qu'on a entendu ici. Par contre, je vais vous épargner ma synthèse. Pour ouvrir tout de suite la discussion avec vous, et je suis sûr qu'il y a déjà des réactions dans la salle. Bien entendu, s'il n'y en a pas, je prendrai le relais. Voilà. Alors, je ne sais pas si le micro marche. Ouais.
Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces conférences très stimulantes. J'avais une première question de la part du public, donc je suis dans le public. J'étais il y a quelques semaines, parce que c'est la Fédération des entreprises romandes, et vous parlez des citoyens, mais tous les chefs d'entreprise ou tous les employés sont aussi des citoyens. Donc même si on a un côté de vie de famille, on a aussi un côté au travail, parfois c'est mélangé, donc c'est vrai. Mais ma question, elle portait sur une réunion qu'on a eue ici à la FER, une sorte de formation qui portait sur justement le fait qu'aujourd'hui, du point de vue des informaticiens, on a accès à toutes ces données sur les gens, qu'on essaie de les utiliser et qu'il n'y a pas toujours que des gens mal intentionnés dans ces entreprises comme Facebook et autres. C'est-à-dire que la Migros, elle veut savoir ce que vous achetez pour vous proposer une offre sur un ragoût de bœuf. Si vous achetez régulièrement du ragoût de bœuf, elle va elle va vous proposer une action sur ce produit, par exemple. Qu'est-ce que vous, du point de vue d'un entrepreneur qui veut utiliser les données, je pense que vous allez tous répondre différemment, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui ne soit pas une violation, parce que moi je le ressens aussi, parfois c'est ce sentiment d'être un peu violé. Mais je voulais savoir jusqu'où on peut aller en tant qu'entreprise, puisqu'ici c'est quand même la fédération des entreprises.
Aujourd'hui, la réglementation actuelle, si on ne prend pas en compte la RGPD, permet finalement à une entreprise de faire ce qu'elle veut. Il n'y a pas de véritable limite. La RGPD, alors ça c'est lié à l'Europe uniquement, parce que dans le reste du monde, après chaque zone a ses différences. Une entreprise en Europe va être incitée fortement, au risque d'amendes un peu plus importantes, à devoir fournir les informations qu'elle détient sur les gens, aux gens qui le demandent, et puis des fois de les supprimer, mais ce n'est pas non plus toujours le cas. Après, ça dépend, il y a des zones aux États-Unis, ça reste totalement libre, dans des zones comme la Chine, il faut, à partir du moment où le service devient un petit peu commercialement un succès, on est obligé de collaborer avec l'État et puis de fournir toutes les informations à l'État. Bon. Il y a différents modèles qui existent. Maintenant, après, il y a ce que moi j'aimerais pouvoir faire. Ce qui est en train de se développer dans certains milieux, c'est de pouvoir fournir finalement tous ces services-là sans avoir besoin de récolter des données personnelles. Parce que les données personnelles, finalement, c'est une responsabilité. Aujourd'hui, qui n'a pas de conséquences pour les entreprises. Hein. Vous pouvez perdre des millions de... ça dépend de quel type d'entreprise. Certaines entreprises perdent des millions de données personnelles, ça peut être grave pour elles. Mais un État, par exemple, une administration qui perd régulièrement des données personnelles, ça c'est pas un problème. Il y a beaucoup d'inégalités dans ce domaine-là. Et puis, moi, je voudrais arriver à un point où finalement, on a des données personnelles, enfin, où les entreprises n'ont des données personnelles que parce qu'elles en ont vraiment besoin pour rendre le service à la personne. L'exemple typique, c'est aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez besoin de donner votre nom, par exemple, si vous voulez acheter un objet en ligne ? En réalité, c'est surtout pour des questions contre la fraude. Mais finalement, après, ça s'enclenche. Après, les États profitent de demander plus. Enfin, les entreprises veulent savoir plus sur vous. Mais pour rendre leur service de base, il n'y a pas besoin de savoir votre nom ou quoi que ce soit. Peut-être juste l'adresse de livraison, c'est le minimum, si c'est un objet physique. Donc, il faut en arriver à ça. Il faut en arriver à un stade où, ça coûte tellement cher à l'entreprise de détenir des données personnelles qu'elle va essayer de tout faire pour ne pas les avoir.
C'est un peu le principe de la patate chaude. Effectivement, les entreprises avec le RGPD vont commencer à fuir les données. Et ça, c'est ça qui va être intéressant. Et c'est là qu'on n'est peut-être pas d'accord les deux.
Non, enfin, c'est là où c'est l'avantage. Ça, c'est le seul point positif de l'RGPD. Voilà. C'est que ça va commencer à devenir cher. Voilà. Ça, c'est bien.
Donc là, on se rajoute.
Voilà.
Alors, c'est intéressant de voir aussi que dans les différentes présentations qui ont eu lieu tout à l'heure, la question de la protection des données est quand même revenue à peu près chez tout le monde. C'est quelque chose qui est en filigrane aussi, qui est vraiment au cœur aussi de cette question de la réappropriation de nos données personnelles, qui est le cœur de la réforme européenne, mais qui est aussi le cœur, quelque part, d'une démocratie, numérisée, avec les outils, avec l'inclusion, avec la protection, avec ces éléments qui ont été dits autour de la capacité d'interagir et de participer. Alors, deux autres questions. Madame, au fond... Le micro arrive.
Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à la question de l'identité numérique. Justement, si on imagine que ce concept on arrive à l'inclure dans la Constitution. Si on prend en compte les scandales de type Facebook, par exemple, ça serait quoi les implications de niveau légal, à niveau politique, face à ce type d'actes? C'est-à-dire, est-ce que l'État interdit l'utilisation de Facebook? Je mets Facebook comme exemple, hein, ça pourrait être autre chose. Mais au pays, est-ce que l'État commence un processus judiciaire avec contre Facebook? Comment vous imaginez ça?
Alors, il y a deux choses. Alors d'abord, on ne parle pas d'identité numérique, on parle d'intégrité numérique. C'est juste très précisant. Parce que, voilà. Deuxièmement, il y a ce que moi, j'espère... Et puis après, il y a la réalité d'un changement comme ça. La réalité d'un changement comme ça, c'est finalement... On sait pas trop un peu comment... Enfin, ça va évoluer au cas par cas. Donc moi, ce que j'espère avec ça, c'est que une personne fasse... vous, par exemple, vous allez recevoir demain... Enfin, il y a Facebook qui a dit qu'ils allaient envoyer un message à tous ceux dont les données ont été touchées. Hein, et qu'on a considéré quoi, environ 30 000 personnes en Suisse, apparemment. Voilà. Si vous êtes une de ces personnes-là, moi, ce que j'espérerais, c'est que vous alliez tout de suite voir un juge en disant « Oui, mon intégrité numérique a été violée par Facebook. » Voilà. Et puis... juste déjà de faire ça. Alors ça va faire réagir le juge. S'il y a suffisamment de gens qui réagissent, les juges vont commencer à réfléchir à cette question-là. Peut-être que ça va transposer dans des lois. Et peut-être que la plupart des juges vont considérer que c'est OK. Et si vous avez eu la possibilité d'avoir un jugement qui a été fait de manière juste, vous direz OK, ça c'est quelque chose de OK, et puis on passe à autre chose. Donc ça permet à la construction de la norme juridique et de la norme sociale. Voilà. Ça c'est ce qui va se passer. Voilà. Après moi, ce que j'espère, ça c'est autre chose, mais ça sera plus long. Ce que j'espère, c'est qu'un comportement comme on a vu, alors dans le cas de Facebook et Cambridge Analytica, c'est que Facebook a une responsabilité beaucoup plus importante sur la manière dont elle gère la bulle informationnelle et comment les informations sont affichées, comment l'algorithme permet d'afficher ça. Par contre, le fait d'une entreprise extérieure qui vienne abuser l'API de Facebook pour manipuler les gens, ça c'est criminel. Mais vraiment criminel au point où une entreprise comme ça, pour moi, devrait être dissolue et puis les dirigeants en prison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que le juge, au lendemain où la constitution est modifiée comme ça, arrivera à cette extrémité-là? Peut-être pas. Il y a une construction qui se fait.
Je profite peut-être juste. Est-ce que cette figure juridique existe déjà dans d'autres pays ou pas?
Non, alors absolument pas. Non, justement, alors le seul cas le plus extrême qu'on ait vu, c'est au Delaware. Au Delaware, il y a une jurisprudence très très particulière. L'histoire c'était que les soldats américains qui étaient morts en Irak et qui avaient fait toute leur... C'était la première guerre où en fait toute la correspondance du soldat s'est faite sur Internet, sur les messageries. Alors à l'époque c'était MSN et Yahoo. Voilà. Et donc en fait, tous ceux qui sont morts là-bas, les familles ont fait ce que toutes les familles de soldats décédés demandent et récupèrent la correspondance des gens. Vous avez peut-être une grand-mère qui a toutes les correspondances, les lettres de votre grand-père ou arrière-grand-père qui est mort à la guerre. Ils ont voulu faire la même chose, sauf que c'était tout électronique. Et les plateformes à l'époque ont dit non, ces données nous appartiennent. Et le Delaware, un juge du Delaware a dit que non, à partir du moment où la personne meurt, les données n'appartiennent plus à l'opérateur, mais appartiennent aux héritiers. Voilà. Donc c'est le seul endroit dans le monde où il y a un changement de la notion de la donnée, change de propriété, devient vraiment la propriété de la personne, mais seulement à partir du moment où elle est morte. C'est un peu dommage, mais c'est pas mal, c'est une première étape. Quoi. Donc le Delaware.
Alors, pour compléter, vous pouvez d'ores et déjà décider ce que deviendront vos données sur Facebook une fois que vous serez mort. Vous pouvez d'ores et déjà, il y a un paragraphe sur Facebook qui vous permet de dire ça, de dire si vous confiez votre page, votre profil à quelqu'un d'autre, ou si vous souhaitez que votre profil soit...
Ça, c'est au bon vouloir de Facebook.
C'est au bon vouloir
de... C'est pas une norme sociale, voilà, c'est ça que la différence.
Non, mais ça donne encore à réfléchir sur, et effectivement... ce que devient notre identité, même une fois mort.
Peut-être pour rebondir là-dessus, parce que derrière, il y a tout ce volet sur ce qui a été évoqué. Alors, notamment, il y a la question de l'inclusion aussi, qui est revenue aussi dans pas mal des présentations. Hein. Et puis de l'accompagnement, que tu évoquais aussi en dernier. Voilà, où est-ce qu'on est peut-être par rapport à ça, et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas quelque part à juguler ce pas hein, qui ne se passe pas. John-Marc, tu parlais aussi d'interaction et puis de liaison. Il y a un gap ici qu'on n'arrive pas à franchir.
C'est un jeu auquel on a tous joué quand on était parents avec nos enfants qui sont en bas âge. C'est quand on essaie de faire rentrer des ronds dans des carrés, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a notre logiciel à nous et on a le logiciel de l'ancien monde qui est... je l'appelle déjà l'ancien monde, hein, je suis désolé. Hein, qui est celui qui est manipulé par nos politiques. C'est-à-dire que quand on posait la question en France, jusqu'à la mandature précédente, le numérique s'était rattaché au ministère des Finances. Donc toutes les questions qui étaient liées au numérique étaient rattachées au ministère des Finances. Donc la question qu'on devait poser en creux, c'est combien ça rapporte ou combien ça coûte. C'était ça, hein, très concrètement, quand on parle du ministère des Finances. Depuis ce gouvernement, alors il faut lui laisser un peu de temps pour voir ce que ça va donner. Et je ne peux pas préjuger là-dessus, je ne suis pas là pour faire la promo ou pas. Le constat est que le numérique est sorti d'un ministère de tutelle pour être abordé de manière transversale dans tous les ministères. Et à partir de là, on a une réponse politique qui est claire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites le numérique, c'est la division de l'information ou le service informatique qui va l'aborder, vous occultez potentiellement tout l'aspect culturel, tout l'aspect social, tout l'aspect économique de la question. Le numérique ne peut pas être abordé par un département, quel qu'il soit. Il doit être abordé au niveau d'une collectivité de manière complètement transversale, c'est-à-dire au sommet de la pyramide, ce qui demande à revoir toute l'organisation. Et quand vous dites à un politique qu'il faut revoir tout son mode de fonctionnement, ben évidemment, ça marche mal.
D'accord, c'est le logiciel de la Suisse, alors qu'il est à revoir.
Tous les logiciels dans les fédérations de la Suisse.
Alors, j'ai quand même été assez impressionné par l'événement du 29 mars qui a été organisé au Collège de France sur AI for Humanity. Le discours du président de la République française était quand même particulièrement bien senti, et aussi avec 1,5 milliard d'euros de budget qui était mis sur ces questions, dans lesquelles l'éthique, l'accompagnement faisait partie effectivement du discours. Alors il faut voir comment ça se transforme. Hein.
C'est effectivement quelque chose qu'on voit avec les deux mandatures, c'est-à-dire que la mandature précédente, quand vous alliez à l'Assemblée nationale, quand j'allais à l'Assemblée nationale et que je posais, que je disais le mot open data, il y avait globalement 10 députés qui comprenaient de quoi je parlais. Non mais voilà, c'est un fait. Et maintenant, ils sont un peu plus nombreux. Donc forcément, il y en a même un, effectivement, qui est le prix Nobel des mathématiques, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc forcément, ça pousse.
La médaille fit.
Sébastien,
vous
Marc ?
Moi, je ferais juste une chose. Surtout quand on parle des citoyens et quand on parle de l'interaction, quand on parle d'une voix, un truc que je vois, surtout chez moi, parce que je viens du Mississippi, au sud des États-Unis, donc on a nos problèmes d'éducation, avec des autres problèmes. Mais pour moi, c'est l'éducation, et ça va directement à ce que vous avez fait, l'accompagnement. Parce que quand, et même moi je ne suis pas tech, je suis plutôt business et politique. Donc pour moi, c'est l'éducation, même pour moi, c'est dur à comprendre. Donc si on parle avec tout le langage juriste, si on parle tout le langage tech, on va perdre des gens complètement. Et le problème avec ça sera beaucoup. C'est trop facile à oublier ce petit problème qu'on ne peut pas comprendre et on va juste à côté, parce qu'on a tellement de problèmes dans la vie et ça sera très très facile à oublier. Donc ça va être à nous, et à vous, et à nous, à essayer vraiment d'aller plus loin dans la discussion, de simplifier ces problèmes, ces thèmes, ces topics. L'architecture de cette conversation sera à nous de simplifier pour que les gens puissent comprendre. Et je dirais ça, pour moi, c'est la fondation. Sinon, on va échouer complètement.
Sébastien, tu veux dire quelque chose ?
Oui, je pense que l'accompagnement, c'est...
L'accompagnement, c'est une bonne chose, mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Donc, accompagner les gens, je pense qu'un préalable, c'est leur donner la possibilité de trouver un intérêt au fait d'être accompagné, d'être demandeur de cet accompagnement. Et un des intérêts les plus universels, c'est peut-être le fait que chacun puisse ressentir une possibilité d'agir sur son environnement. C'est-à-dire, je fais quelque chose au niveau d'une plateforme, d'une entité numérique, parce que je sais que, à mon petit niveau, quel qu'il soit, je vais pouvoir avoir une action. Et c'est ça qui frappe peut-être le moteur qui va faire que certaines personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui ou qui n'en trouvent pas un intérêt à avoir accès à ces plateformes numériques vont aller chercher cet accompagnement, si tant est qu'il soit disponible. Mais encore faut-il qu'elles aillent le chercher, qu'elles aient envie d'aller le chercher.
Merci. Monsieur avait une question.
Merci pour les présentations. Moi, j'avais juste une petite pièce qui me manque un peu dans le puzzle, parce qu'on parle de citoyenneté, démocratie à l'ère du numérique. Et là, vous avez présenté différentes initiatives qui ont trait aux citoyens. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être un élu dans une société du numérique? Et est-ce qu'il y a des initiatives qui pousseraient ou qui forceraient un peu les élus à rendre compte des politiques qu'ils portent ou des sujets qui veulent mener à bien? Et juste pour mentionner, il y a un peu en Suisse, il y a smartvote.ch qui donne un peu ce genre d'idées, un peu de diagramme, mais a posteriori sur des thématiques très précises et sur des résultats d'impact sociétaux, etc.
Alors je peux répondre côté français, hein, je suis désolé pour le côté suisse que je maîtrise pas du tout, et comme je travaille aussi en lien avec des élus français, être un élu numérique, quelle que soit sa couleur politique, c'est d'abord pour eux faire preuve de transparence. C'est-à-dire que typiquement, ils reçoivent des émoluments en compensation de leurs fonctions, et certains, et très peu, très très peu, hein. Quand je dis certains, c'est 3 ou 4 hein, sur 577, hein, donc on modère ce que je viens de dire tout d'un coup, disent publiquement comment ils utilisent l'argent du contribuable. C'est déjà un premier pas. D'autres font des initiatives qui pourraient ressembler à celles de l'INILAB, c'est-à-dire que concrètement, ils demandent par exemple aux citoyens d'apporter des amendements sur des lois, des avis, sur les questions et les choses comme ça. Mais c'est encore très 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 marginal, y compris en France.
Quand on a réfléchi à ce concept de plateforme participative, on a été confronté au fait de retour de certains politiques qui nous ont dit quelque part redonner plus de pouvoir à la décision ou à la parole citoyenne, même en Suisse, c'est potentiellement délicat. C'est-à-dire que plus on donne le pouvoir au peuple, quelque part, si on est très provocateur, moins on le donne aux politiques. Donc il faut trouver le curseur par rapport à ça. On a essayé de valoriser le discours politique et l'identité numérique politique sur la plateforme en donnant non pas des fonctionnalités supplémentaires à ceux qui ont un élu, qui ont un statut d'élu politique, mais une visibilité différente. On va voir ce que ça donne, on va voir comment ils l'utilisent. On va voir s'ils utilisent ce type d'outils justement pour propager la parole qu'ils mettent en place. Et comme ce que tu disais, s'ils le propagent, c'est forcément dans une notion de transparence. Parce que ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe sur les plateformes, quelque part reste sur les plateformes. Ça reste visible, ça reste accessible.
Peut-être le hardware du politique aussi qu'il faut upgrader.
Thomas ?
Ouais, peut-être, je peux parler pour les États-Unis. Je crois qu'il y a, on a oublié, un tipping point. Je crois que maintenant, la génération de millennials, il y a plutôt une bottom-up, une approche bottom-up. Et je crois qu'on voit vraiment un changement, parce que, en anglais encore, les old guards, très vieux politiciens, la génération de nos grands-parents, mes parents, qui sont en pouvoir maintenant, je crois qu'ils sont au cœur, il y a une peur.
il y a une peur de l'information, il y a une peur de transparence. Et parce que, bon, c'est le contrôle, hein. C'est le top-down, c'est le contrôle. Et je crois que maintenant, il y a les cracks, les fissures dans ce pouvoir, dans cette mentalité de pouvoir politique. Et je crois que d'être un politicien maintenant, dans 2018, je crois que c'est une acceptance, accepter ce fait, et petit à petit, faire des mouvements, des changements, un discours plutôt vers une approche de confiance.
C'est ça. Une phrase du contrôle.